Nous sommes mercredi 31 janvier 2018 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bah, Drosgar qui pleure.
Bonsoir.
Voilà, bonsoir Mecton.
Ouais, bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut.
Et donc, ce soir, dans notre émission spéciale Clash des... Clash des experts.
Clash des merdes.
Clash des merdes.
Le Super Xenoblade Battle, on va l'appeler.
Le Super Xenoblade Battle, non, mais c'est le clash, c'est-à-dire qu'il va y avoir un clash de rap au milieu. Vous allez devoir rapper pour dire pourquoi Xenoblade c'est bien ou pas bien. Ça va être un ça va être un grand moment.
Putain, avec ma voix, ça va être top. En plus.
Un grand moment de radio. Mais tout d'abord, nous allons commencer par le petit tour de table de l'actualité. Et je vais laisser Monsieur Antix commencer, qui veut nous parler du mercato d'hiver des développeurs.
Des développeurs au Japon, et oui, car donc on a eu deux annonces d'embauche plutôt surprenantes. La première, c'est Yuji Naka, donc le papa de Sonic. Enfin, il me semble, hein, on est bien d'accord que c'est le mec qui a fait Sonic.
Alors, c'est possible.
C'est possible.
Coupable.
Le mec est responsable de Sonic. Responsable, mais pas coupable. Enfin, pas complètement.
Oui, donc voilà, il a développé entre autres Sonic.
Et aussi Rodea the Sky Soldier.
Ouais, donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins glorieux. Les Phantasy Star aussi, qui sont des chouettes RPG de la Master System, notamment. Et des trucs genre Chuchu Rocket ou Samba des Amigos. Mais en tout cas, d'après Wikipédia, il y a beaucoup, beaucoup de Sonic.
Ça, c'était l'instant. Et... une preuve de bon goût.
Et donc, après avoir, avoir formé son studio qui s'appelle Prop, et qui est notamment connu pour avoir fait l'excellent Let's Tap dont s'est inspiré Nintendo pour Nintendo Labo. Et c'était un jeu qui se jouait avec...
avec un bout de carton.
Oui, oui, oui.
Avec un bout de carton et une note.
Et Rodea the Sky Soldier, excellent jeu de la Wii U, pas du tout porté avec les pieds.
Alors, excellent jeu de la Wii, porté sur 3DS, version elle-même portée sur Wii U. C'est la marque de l'excellence.
Donc à aucun moment, hein,
on aura bientôt le pantalon sur Switch. Alors.
Donc, et donc ce monsieur, vu qu'apparemment dans son propre studio il s'emmerde, eh bien il a rejoint Square Enix. Alors pourquoi, on ne sait pas. Pour faire des jeux peut-être, pour faire des bons jeux.
Alors nous, l'intégralité de l'équipe du Dojo se joint à moi d'abord pour féliciter Yuji Naka d'avoir réussi à arnaquer 1 million d'yens par an à Square Enix. Bravo, franchement, bel joli coup.
Bon, ceci dit, après Final Fantasy XV...
Voilà, nous souhaitons bon courage à Square Enix pour se relever de cette mauvaise nouvelle.
Voilà, sachant qu'ils sortent de Final Fantasy XV aussi, hein. Précisons-le.
Bah, est-ce que ça pourrait être pire? Oui, Final Fantasy XV, cross Rodea the Sky Soldier, dans l'univers de Sonic 06.
Donne pas des idées comme ça.
Voilà. Ah putain, Square Enix, si tu nous écoutes...
Et en fait, il a pas travaillé sur Sonic the Hedgehog 2006. Il s'est barré juste avant.
Ah oui, mais il avait fait l'essentiel.
Voilà. Non, mais je pense qu'il avait senti la merde venir quand il bossait sur Shadow the Hedgehog, notamment.
Et donc, nous avons un deuxième transfert, un petit peu surprise.
Alors, c'est pas un transfert parce que pour le coup, le monsieur bossait dans son coin. C'est Ojiro Fumoto. Alors, un nom qui ne vous dira probablement rien, mais qui est responsable d'un chouette petit jeu indépendant d'action plateforme qui s'appelle Donwell. Dont le but était très simple, puisqu'il s'agissait de contrôler un petit personnage qui tombait dans un puits relativement profond, puisqu'il finissait dans les enfers. En tout cas, c'est de ce que j'en ai vu, parce que j'ai toujours pas fini le jeu. Et pour pouvoir se défendre, eh bien, le monsieur avait des bottes jetpack qui lui permettaient de se maintenir en l'air lorsqu'il tirait des balles. Donc en fait, quand on était en chute libre, eh bien, on pouvait tirer sur les ennemis, sinon on pouvait sauter. Et c'était vraiment un super chouette jeu qui est disponible sur des consoles concurrentes, des supports Windows et aussi sur des supports mobiles de type Android ou iOS. Et que je vous conseille.
Inférieur.
Que je vous conseille fortement, et je vous conseille fortement de tester Donwell si vous en avez l'occasion. Car c'est vraiment un super chouette jeu. Et donc le monsieur a été engagé par Nintendo.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors déjà, Yuji Naka n'est pas chez Nintendo, c'est une excellente nouvelle. Et les messieurs indépendants qui finissent par travailler pour Nintendo, il y a moyen que ça fasse des choses un peu intéressantes.
Surtout quand le monsieur a fait un très très chouette jeu d'arcade, qui personnellement, pour le peu que j'y ai joué, m'a énormément accroché. Donc j'espère qu'ils lui laisseront, Nintendo saura lui laisser la liberté qu'il faut, la liberté créative qu'il faut, ainsi que l'équipe, pour qu'il nous fasse un petit jeu aux petits oignons.
Eh bien non, il va créer un jeu et Miyamoto va débarquer en disant « Haha, ce serait drôlement bien qu'on mette Star Fox dedans.
Ça serait trop bien qu'on mette Captain Falcon dedans. Et on va jouer donc du coup à Don Falcon, un jeu où Falcon tombe dans un puits et ne peut que remonter à l'aide de Falcon Punch et de Falcon Kick.
Eh, n'empêche, tu rigoles, mais ce serait vachement bien comme concept.
Elles sont très conceptuelles. Mais en tout cas, je suis très content. Enfin, je suis content. J'espère vraiment qu'en tout cas, cette embauche donnera quelque chose de vraiment intéressant. Alors, probablement pas avant 2019, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'un petit jeu sorti un petit peu plus rapidement, des matchs uniquement.
D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, ça résume un petit peu le mercato d'hiver. Effectivement, les arrivées surprises, Yuji Naka chez Square Enix et Monsieur Donwell, parce que le prénom japonais, vous m'excuserez, je ne l'ai pas retenu.
Chez Ojiro Nintendo. Fumoto.
Ojiro Fumoto, voilà. Ojiro Fumoto. Je vais passer la parole à Zergy qui voudrait nous parler de la chaîne Boutique Wii. Alors c'est pas l'eShop, c'est l'ancêtre. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, Galaxy si tu nous écoutes, c'est l'ancêtre de l'eShop. C'est à l'époque où il n'y avait pas encore le Play Store et l'App Store et tout ça, mais on achetait quand même des trucs en démat, mais ça s'appelait la chaîne Boutique. Voilà, donc Monsieur Zergy pour la chaîne Boutique, parce qu'effectivement nous avons appris... Un grand
donc,
regret.
Effectivement, la chaîne boutique, c'était un des derniers trucs qui restait actif sur la Wii. Et à partir de fin mars prochain, on ne pourra plus acheter de points Nintendo pour acheter des trucs dessus. Et à ce que j'ai compris, le 1er janvier 2019, il coupe.
Alors, il coupe, ça veut dire qu'on ne pourra plus re-télécharger les jeux qu'on a légalement achetés.
Normalement, ouais, j'ai l'impression que c'est ça.
Et on ne pourra plus acheter de... Enfin, il n'y aura pas de nouvelles sorties, mais ça, je pense que les sorties sur la chaîne boutique, il ne peut y en avoir
beaucoup. C'est un peu emmerdant pour certains jeux qui étaient intéressants.
Bah, je crois qu'il y a des jeux Virtual Console qui ne sont pas ressortis sur,
après...
sur Wii et sur Wii U par la suite, hein, non ?
Alors, notamment, mais il y a aussi des jeux qui sont jamais ressortis, enfin, qui sont sortis juste sur Wii et qui sont jamais ressortis ailleurs, hein, aussi. Donc, bah, alors après, c'est pas forcément des trucs de ouf, mais ça veut dire que la seule solution à partir du 1er janvier 2019, si j'ai bien suivi la date, ce sera le piratage.
Voilà, bah après, le online, oui, ça tourne encore via du piratage, donc avec des backups, est-ce qu'il y a moyen que...
Bah probablement, de toute façon, il y a déjà des comment dire, des ROM, enfin des ROM, c'est pas vraiment des ROM, mais il y a déjà les fichiers des jeux qui tournent sur certains sites bien renseignés. Je pense que d'ici quelques mois, on va voir arriver des packs avec l'intégralité de l'eShop, de la chaîne boutique, oui, tous les jeux, toutes les virtuelles consoles, tout le machin, dans un seul pack qui fera... Je sais même pas combien ça va faire, parce que je crois que c'était quoi la taille maximum des jeux dématérialisés sur Wii ? C'était 40 ou 50 mégas ?
Je crois que c'était 40. Alors oui, je pense,
putain,
que ça
petit,
concerne, hein. Je pense que ça concerne aussi la virtuelle console qui va aussi être coupée.
Bah, ce serait logique. En même temps, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui re-téléchargent ou téléchargent des choses sur Wii. Alors si vous avez téléchargé beaucoup de choses sur Wii, je vous conseille de vous équiper d'une carte SD, d'en récupérer le plus possible et de faire une sauvegarde de la carte SD en question pour pouvoir éventuellement la récupérer un peu plus tard. En espérant que ce soit pas coupé définitivement. Sinon, je pense qu'effectivement, il y aura des sites sur lesquels on pourra télécharger l'intégralité de la ludothèque dématérialisée de la Wii dans quelques semaines, quelques mois, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. On va enchaîner avec Mecton, qui veut faire un peu d'auto-promo.
Ouais, enfin, un presque petit clin d'œil. Oh, hashtag pub.
Bah ouais, putain, clique à l'oral, tu crois quoi ? Bon, alors, on s'est bien foutu de ma gueule tout à l'heure quand on l'a préparé, mais effectivement, c'est une anecdote que je ne connaissais pas. Souvenez-vous, Link's Awakening sur Game Boy, on peut croiser donc le prince Richard, un BG avec une mèche très saillante qui crèche dans un petite baraque entourée de grenouilles. Et ben en fait, ce prince Richard, il a un jeu complètement dédié à lui qui s'appelle, alors en français, Pour la grenouille sonne le glas, en japonais,
allez, bon courage,
je l'attends.
Oh putain,
je l'attends. Kairu no tame ni kane wa naru.
Eh bien, c'est pas mal. C'est
First
pas
try.
Mal.
First try. D'ailleurs, voilà. Le personnage était un trophée, un assist trophée dans le dernier Smash Bros.
Ouais, j'avais même pas tilté que c'était le même, du coup. Donc bref, voilà, super surprise faite par l'ami Tardigrade, qui se casse bien pour nous faire des super articles sur le dojo. Allez-y, lisez-les, c'est du bon.
Et j'en profite pour rajouter un petit détail qui, me semble-t-il, est dans l'article. Mais je l'ai lu la semaine dernière, en fait. Donc, enfin, je l'ai lu quand il est sorti, donc du coup, il y a 2-3 trucs qui me sont un peu sortis de la tête. Mais ce jeu utilise exactement le même moteur de jeu que Link's Awakening, et je me demande si c'était même le prototype, en fait, de Link's Awakening.
C'est même la même équipe de mémoire. Dans le bouquin de Oscar Lemaire, il en parlait, et c'était globalement le jeu qu'ils avaient fait avant, quoi.
Il me semble aussi. Mais du coup, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est un prototype, et il existe des traductions au moins en anglais de ce jeu. Je ne sais pas s'il en existe en français.
Il en existe une française, mais Tardy dit qu'il n'a pas voulu la faire. Ouais.
D'accord, mais enfin, en tout cas, je sais que la traduction anglaise existe et qu'elle fonctionne plutôt bien.
Bon, sachant que le jeu doit pas être non plus très, très épais en texte parce que c'est un jeu Game Boy.
Ouais, mais c'est enfin, en japonais, même quand il n'y a pas beaucoup de texte.
Oui, non, mais je parlais plus pour la version anglaise-française. Tu vois, anglais, je pense que si tu t'intéresses à ce genre de jeu, tu as quand même un niveau d'anglais correct.
Oui, et, oui, tout à fait. Oui.
Et puis on parle quand même de la Game Boy où globalement afficher des textes c'était un peu compliqué, donc Link's Awakening c'est pas non plus un jeu très bavard, quoi. Même s'il y a beaucoup de textes pour un jeu Game Boy, ce qui est surprenant, mais
Oui, mais c'est pas le texte, c'est pas ce qui coûte le plus cher en fait sur Game Boy, donc globalement on pouvait se permettre. Oui, voilà. Drosgar qui veut nous parler des ventes de la Switch, puisque le camarade Oscar, si tu nous écoutes, a fait un petit résumé rapide de tout ce qui était de la santé de la Switch sur l'intégralité de l'année 2017, me semble-t-il.
Hashtag Nintendo va mourir.
C'est ça. Non, voilà, justement, est-ce que vous saviez que Nintendo allait mourir?
Oui. Mais oui, que tout le monde était au rouge.
Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé lors de leur
comme bilan toujours depuis 97.
C'est ça. Gameblog l'annonce tous les mois, mais apparemment, Nintendo n'a pas très bien compris le message, vu qu'ils ont fait 6,3 milliards de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année fiscale, c'est-à-dire une hausse de 175% par rapport à l'année passée, et 1 milliard de bénéfices nets, donc une hausse de 31%, ce qui est quand même pas négligeable. Donc on a eu pas mal de chiffres.
Ça fait un petit pécule, ça fait un petit... Voilà, c'est...
Voilà, c'est ça, on peut l'argent de poche. Maison quelque part, quoi. Genre un deux pièces à Paris.
Attends, un deux pièces à Paris, à condition que tu prennes un crédit, hein, à ce niveau-là.
Oui, quand même, oui. Du coup, on a eu pas mal de chiffres, donc des moins intéressants, même si c'est quand même cool de savoir, par exemple, qu'il y a eu 53,6 millions d'amiibo écoulés depuis le début.
Putain.
Il y en a eu 11,9 millions rien que sur l'année 2017.
Non, alors, depuis 2014. Hein.
D'ailleurs, il y a eu une note de Tonton Kiki Kimishima, le PDG Nintendo, qui remercie personnellement Pab de sa contribution.
Il représente à lui tout seul 2% du chiffre d'affaires de Nintendo.
À lui tout seul, il représente 4% des amiibo achetés, 2% du chiffre d'affaires.
Ceci dit, Mortal, tu peux parler, mais t'es pas mal non plus.
C'est vrai, t'en as pas mal.
Oh, ça va, c'est bon. C'est ma femme, c'est pas moi.
C'est
entendu. Du coup, si on prend les animaux, par exemple, 11,9 millions sur l'année 2017, c'est-à-dire une hausse de 11% par rapport à 2016. Et personnellement, je pensais pas que les animaux allaient plus se vendre en 2017 qu'en 2016. Comme quoi, on a toujours des surprises, et c'est quand même intéressant. Après, si on parle de la console en elle-même, donc la fameuse Game Boy... Non, c'est pas ça, la fameuse Switch, il y a eu 14,86 millions de consoles qui ont été écoulées au moment de Noël, à peu près, fin décembre.
Donc, plus que de Wii U dans toute sa vie. Maintenant, c'est officiel. Ça.
Voilà, elle a poutré la Wii U.
Sur même pas un
la
an de vie. Ah oui, la manette pour la Wii.
C'est ça, oui, la manette pour la Wii.
Oui, c'est la.
Non, mais vu les portages, Nintendo a vraiment envie qu'on l'oublie.
J'ai un peu l'impression que oui, d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse une émission consacrée à ces portages parce que c'est vrai que cette habitude commence à devenir un petit peu gênante dans certains cas.
Bah, quand on parle de portage, justement.
On pourra jouer à des bons jeux.
Oui, mais c'est vrai, oui, ça, tout le monde pourra y jouer. Mais tant qu'on parle des portages, on voit que Mario Kart 8 Deluxe s'est vendu à 7 millions d'exemplaires, c'est-à-dire que c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'année pour Nintendo, juste
de console,
derrière
d'ailleurs.
Mario Odyssey. Oui, de la console aussi, mais même pour Nintendo en général.
À peu près autant que sur Wii U, en gros.
Non, il a dépassé maintenant. Clarinaire avait dit moins.
J'avais les chiffres sous les yeux.
C'est genre 5 millions sur Wii U, 7 millions sur Switch, une connerie comme ça.
Ah, pardon. 8,4 millions sur Wii U et 7,3 sur Switch.
Il dépassera. C'est pas mal pour un portage à l'arrache.
Oui, c'est sûr.
C'est vrai que d'ici mars-avril, il l'aura dépassé, quoi.
Oui, c'est ça.
Du coup, il y a aussi une petite nouvelle qui est intéressante pour notre émission d'aujourd'hui. C'est que Xenoblade 2 s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et c'est la première fois pour un jeu de la licence.
Bim!
C'est la merde, c'est
dommage,
la merde.
C'est dommage,
il commence.
C'est ça, t'as oublié de parler du chiffre de vente de Mario Odyssey qui est quand même assez excellent, quoi. Parce que
9 millions d'unités vendues, ce qui est le plus gros jeu à la fois de la console et le plus gros jeu de l'année pour Nintendo.
On parle d'un jeu qui est sorti fin octobre quand même. Hein.
Ouais. Non, mais c'est bien.
On parle d'un jeu exceptionnel aussi en termes de. C'est marrant, il n'y a pas les Zelda et pas si.
6,7 millions de mémoire.
C'est ça. Ah oui, bon, ça va quand même. C'est
que,
sympa.
Que la version Switch, hein, du coup.
Je tiens à faire un. Oui, que la Switch. Je tiens à faire un petit aparté. Tout à l'heure, j'étais au magasin, parce qu'en plus de mes études, je travaille dans un magasin, et il y a un ancien collègue qui est passé et qui a dit qu'il allait acheter la Switch. J'ai dit, ok, tu vas prendre quoi comme jeu? Il a dit, bah, j'ai un cousin qui bosse chez Micromania, du coup, il me fait des prix. Et du coup, je vais prendre. Bah, soit Zelda, soit Mario, soit Sonic Forces.
Soit One to Switch.
Et du coup, je lui ai dit prendre Sonic.
Change d'avis.
Salaud!
Et il va vraiment l'acheter.
Ah, les cons. Vous êtes des salauds. Monsieur l'arbitre, vous êtes un salaud. voilà, je n'hésite pas à le dire. Je vais terminer ce petit tour de table de l'actualité par une petite nouvelle qui nous vient du Japon. Elle est Opai. Non, absolument pas. Par une nouvelle qui me tient à cœur. Vous connaissez peut-être la puce MSU1 en bon français, qui est en fait la puce qui était supposée être dans le lecteur CD-ROM de la Super Nintendo. Le Super CD-ROM, comme j'aime à l'appeler. Cette puce-là permettait, entre autres, alors de faire du décodage en qualité CD de certaines bandes originales. Donc ça servait en gros de décodeur audio, et de décodeur vidéo. Il y a notamment une adaptation de Road Avenger qui tourne sur CD-ROM Super Nintendo, donc sur Super CD-ROM, et qu'on peut télécharger, qu'on peut mettre sur un petit SD to SNES, donc ça, les lecteurs de jeux sur carte SD pour Super Nintendo, donc les petites flashcards. Et on peut, si la flashcard est à la puce MSU1, aller lire Road Avenger, donc aller lire des jeux en FMV ou des choses comme ça, ce qui a peu d'intérêt. Par contre, les versions MSU1 des jeux, c'est en général plus intéressant parce que vous avez des BO qui sont soit refaites par des fans, soit ce sont les versions orchestrales de certains morceaux qui étaient sortis en CD à l'époque ou qui sont sortis en CD depuis et qui sont en fait réinjectés à l'intérieur des ROM des jeux, donc vous avez finalement de la musique en qualité CD sur des jeux historiques de la Super Nintendo. C'est comme ça qu'il y a une version de Super Metroid, une version MSU1, version métal pour la musique, donc c'est des reprises métal des morceaux de Super Metroid et qui tournent en qualité CD et qu'on peut jouer sur une vraie Super NES à condition d'avoir évidemment une flashcard compatible. Et l'un des derniers en date, c'est Illusion of Time, un jeu de Quintet Enix, qui est un de mes jeux préférés de la Super Nintendo, même s'il est extrêmement linéaire. C'est un jeu qui a vraiment marqué mon enfance pour tout un tas de raisons. Et il a eu ce traitement MSU1, et donc on peut écouter l'ABO originale de... Merde, j'ai perdu son nom, c'est le mec qui a composé Actraiser aussi.
Voilà. Yuko Kojiro.
Il me semble que c'est lui, oui. Yuko Koshiro.
Semblant.
C'est à revérifier parce que j'ai un petit doute, mais enfin, en tout cas, on peut écouter la BO d'Illusion of Time qui est juste extraordinaire en version orchestrale sur le vrai jeu. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a toujours les bruitages d'origine de la Super NES, mais on a la musique orchestrale en fond.
Alors, je te confirme, c'est bien Yuko Koshiro qui était notamment le mec qui a fait les musiques de Street of Rage.
Merci beaucoup de m'avoir confirmé. J'étais quasiment sûr que c'était lui, mais là, comme ça, j'ai vraiment une confirmation. Donc, si vous voulez vous amuser à ça, sur un émulateur, ça marche très bien. Sur une flashcard, ça marche très bien. Et sinon, sur YouTube, vous cherchez Illusion of Gaia, qui est la version américaine, MSU1, et vous pourrez écouter l'intégralité de cette BO, de cette version de la BO. Très impressionnant, c'est là que je regrette finalement que le Super CD-ROM soit jamais sorti, parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir ce genre de choses-là, et ça aurait vraiment pu être... très très chouette. Voilà, on va faire une petite pause musicale qui ne va avoir rien à voir. Alors du coup, je passerai pas un morceau de Illusion of Time orchestral, peut-être pour la semaine prochaine, si vous êtes très sage. Je vous propose d'écouter un petit morceau de la bande originale de Xenoblade Chronicles 2, que du coup, j'avais pas écouté avant de faire cette émission, que j'ai écouté en partie aujourd'hui, et qui est vraiment très sympa. Quelques morceaux très très bien. Pas tout, quelques trucs vraiment très bien. Et donc c'est un morceau qui nous avait proposé par Antix, qui s'appelle Shadow of the Lowlands, et qui dure un tout petit peu plus de 3 minutes. Et Antique, si tu veux faire un petit peu de mise en contexte.
Alors, c'est un morceau qui a été composé par un des compositeurs du jeu, qui est Yasunori Mitsuda, qu'on connaît surtout pour les Chrono Trigger, le premier Xenosaga et le premier Xenogears, et qui est responsable de l'affreuse chanson de fin de Xenoblade Premier du nom. Et là, en fait, il a fait appel à une chorale irlandaise dont le nom m'échappe, mais dont vous pouvez trouver le nom en fait en cherchant le titre de la piste dans YouTube, puisque Vidéo a sorti un clip officiel de cette musique, et c'est une musique que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime beaucoup la bande-son de Xenoblade 2, et c'est un titre qui arrive vers à peu près le second tiers du jeu, vers la fin du second tiers du jeu.
Anula, la chorale.
Voilà, merci Hanouna, qui est vraiment très très jolie et qui pour le coup donne enfin, le lieu dans lequel elle est jouée donne vraiment une très très chouette ambiance, un petit peu de désolation. Donc ceux qui ont joué au jeu, ça, ouais. Voilà, ceux qui ont joué au jeu, ça vous sait. Les autres, bah, je vous laisserai découvrir si jamais d'aventure vous jouez à Xenoblade.
Merci. Et bien du coup, on va s'écouter ça tout de suite. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et donc c'est le grand duel des experts, le Clash of Xeno 2, Antix, à ma droite, 1m85-92 kg, que du muscle.
Tu m'en retires des kilos. Hein.
Écoute, c'est pour pas te vexer. Et à ma gauche, Mecton, 1m73-62 kg, tout mouillé.
Oh le bâtard.
Voilà, moi personnellement, je pense que j'ai déjà mon gagnant.
Je sais pas, est-ce qu'on prend des paris ou pas? Est-ce que je peux gagner de l'argent sur des paris truqués?
L'arbitre est totalement neutre.
Ouais, je vois ça.
L'arbitre est pas du tout impartial, tout va bien.
Aucun arbitre, déjà.
Alors, Poppy...
L'arbitre, il aime pas les RPG, quoi.
Poppy or not Poppy.
Ah, oh, putain.
C'est that is the question. Bref, Antix va donc représenter le clan de Xenoblade 2, c'est de la merde en bouteille.
Alors, je n'irai pas jusque-là, monsieur Mortal, mais. Ouais, c'était quand même pas génial.
Et Mecto va représenter le clan de putain, c'est un chef-d'œuvre, c'est le jeu de ma vie.
J'ai kiffé de ouf.
Je suce Yuji Naka tous les jours.
Voilà. Mais peut-être pas non plus.
Voilà, ça insulte direct.
J'ai kiffé Hideo Kojima ce jour-là.
Oh putain. Donc, Eh, mais direct, je ramasse quoi.
Mais non, mais c'est pour te taquiner. Je vous propose de commencer par tout ce qui est ambiance, univers, musique, chara-design, bref, ce genre de choses-là. Puis d'aborder la partie combat, système de jeu, progression, exploration, tout ça. Et de terminer par le scénario, sachant que quand on va aborder le scénario, va y avoir du spoil, va y avoir du divulgachis. On vous préviendra juste avant si vous n'avez pas fait le jeu et que vous n'avez pas envie qu'on vous gâche des surprises. C'est à ce moment-là qu'il faudra couper l'émission ou le podcast si vous nous écoutez en podcast.
Voilà, si vous voulez pas savoir qu'à la fin, ils meurent tous.
Ah non,
ah merde, chef, bâtard.
Et l'enfoiré. Voilà, donc je vous propose de commencer par l'ambiance, l'univers, la musique, tout ça. Je vais laisser la parole à Mecton pour démarrer. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'univers, l'ambiance, ce que tu as pensé de la musique, ce que tu as pensé des graphismes, des personnages, du chara-design, enfin bref, tout, on va dire, l'habillage cosmétique du jeu.
Eh ben, c'est très bien.
Merci, voilà.
Je ne suis pas d'accord.
Alors, attendez, c'était pas dans le dernier Xenoblade qu'il y avait eu les habits des meufs qui avaient été censurés en Europe?
Ah, tiens, bonne question, j'ai pas vérifié si on a la même chose.
Apparemment, si, il y a eu des petites modifications d'ordre visuel, et alors, ça ne surprend pas vraiment.
Les boobs.
Non mais les tangas étaient un petit peu trop échancrés sur la version japonaise, donc là ils ont remplacé ça par des petits shorties en dentelle, c'est beaucoup plus joli.
Bon, alors, par quel bout le prendre? Petite présentation univers? Allez.
Oui, vas-y.
Alors,
il est moche.
Oh, il est varié. Il y a des choses
qui te plairont. C'est ça, on dirait un peu quand on dit un enfant handicapé qu'il est errant.
Oh putain. Non, il y a des choses qui te plairont, des choses moins. Pour le coup, c'est vraiment une question de goût. Voilà, typiquement, je dis pas que j'ai tout aimé dans la DA du truc. Mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, l'univers en lui-même. Dans le premier Xeno, tu avais deux titans qui, en gros, se mettaient sur la gueule jusqu'à ce que l'action se fige. Et tu avais, en gros, deux mondes.
Ouais, c'était... Alors, c'était un titan biologique qui s'appelait Bionis, et un titan mécanique qui s'appelait Mekonis.
Et c'était super cool comme idée d'avoir deux titans qui se foutent sur la gueule, et finalement la vie apparaît, finit par apparaître sur
voilà. Et finalement, le conflit, enfin, dans le premier Xenoblade, le conflit se continuait en fait entre les races qui avaient. Qui était apparu sur les différents titans, puisque en fait l'intro du jeu t'explique qu'en fait ils continuaient à se friter sur la gueule, mais à taille d'être humain normal, quoi.
Voilà. Donc Xenoblade X, c'est l'exploration de la planète
Mira. Donc après que la Terre a été détruite suite à une attaque d'extraterrestres, c'est les derniers survivants de l'humanité atterrés sur une planète qui s'appelle Mira, et en gros tout le but de Xenoblade X, c'est globalement pour l'humanité de s'établir sur cette planète, de lier des liens avec les différentes espèces, qu'elles soient locales ou extraterrestres, et tout bêtement survivre aussi aux mecs belliqueux qui se trouvent dans le coin.
Et donc, c'est pas ce qui est. Et donc pour Xenoblade de Mecton.
Truc intéressant, c'est que toi, Antix, tu avais un background assez solide sur la série.
Bah, globalement, j'ai fait les deux, plus aussi un ou deux autres jeux de Takahashi, notamment Xenogears sur PlayStation.
Voilà, si jamais ça peut mesurer un peu mon propos, j'ai un vague souvenir du premier, je n'ai pas joué au X, et le 2, c'est le premier de la série que je fais avec autant d'implication, quoi. Donc le jeu commence, on découvre un univers où en gros y a rien, quoi. C'est une grande mer de nuages
et la lumière fut.
C'est un peu ça, ouais. En gros,
c'est Baten Ketos.
Voilà, oui. Un grand rien et l'humanité se démerde à peu près à essayer de survivre sur le dos de titans géants qui nagent dans cette mer de nuages, quoi.
Des titans qui sont un petit peu différents de ceux du premier, puisque c'est plus deux titans humanoïdes. Ils ont des formes diverses. On en a un qui ressemble à une baleine, un qui ressemble à une espèce de girafe ou d'élan. Donc du coup, ils ont plus un aspect animal.
C'est une girafe élan.
Une girafe. Ouais.
C'est une tortue géante comme... sur le dos de quatre éléphants.
Ouais. C'est ça.
qui nage dans un.
Alors c'est deux éléphants, pas quatre.
Merde, j'ai plus.
On fait ce qu'on peut.
Et voilà, donc l'autre différence, c'est que chacun de ces titans représente une nation, donc il y en a plus que deux.
Du coup. Il y en a sept en tout, qui ont tous des envies variées, puisqu'on a la nation un peu champêtre, qui est la première qu'on rencontrera.
Très pittoresque.
La nation monarchique, qui habite dans la baleine. Évidemment, l'indispensable empire, qui a des usines de partout, mais qui n'est pas belliqueux cette fois, bizarrement. Enfin,
il y a toute une géopolitique que j'ai trouvé vachement intéressante, justement.
Du coup, ça donne un univers assez varié.
Mais ils arrivent vraiment à faire cette personnalité, oui. Entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette civilisation bien distincte avec leur titan bien personnalisé et finalement une tendance très forte et très marquée, parce que sur un ou deux ça me paraît logique, tu vois, genre l'empire industriel maléfique, le royaume pacifique avec une princesse coconne et le royaume champêtre avec des connards, ça me paraît jouable, mais dès qu'il y en a sept, j'ai peur qu'il y en ait qui finissent par beaucoup se ressembler.
Bon, c'est un peu chaud.
Il y en a qui sont moins abordés que d'autres quand même. Enfin,
voilà.
C'est mon avis personnel, il y en a un ou deux. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sept noms des sept titans principaux sont basés sur le nom des sept péchés capitaux.
Yes.
Et donc, globalement, chaque endroit où on va est censé s'inspirer un petit peu de ce péché.
Et donc, le titan de la luxure est un god michet géant qui flotte dans les nuages.
Je sais plus lequel c'est la luxure.
Merde,
d'ailleurs. J'ai oublié lequel c'était. Mais par exemple, le premier que tu visites, en fait, qui est une espèce de titan, mais qui est surtout un grand centre commercial, en fait, tout simplement, c'est basé sur l'avarice. Puisque là-bas, en fait, tu as une espèce de mafia de bonne.
L'avarice.
Et Nopal, je vous rappelle, c'est les petites boules de poils mignonnes et à la fois insupportables. Et bah là, du coup, tu as une mafia et le chef de la mafia, c'est un open avec une voix de baryton, quoi. En soi, ça c'était drôle. Moi, ça m'a beaucoup fait rire au début du jeu d'entendre ça. Et donc, tout l'univers est basé là-dessus. Plus un ou une ou deux autres zones qui gravitent aussi autour de ces thèmes, mais qui sont un petit peu plus discrets de ce côté-là. Mais il y a des thématiques assez prononcées, et c'est vrai que c'est plus ou moins équilibré. Je trouve notamment que le dernier titan qu'on visite est pratiquement survolé par moment.
Oui.
Enfin, c'est pas celui où t'es le plus impliqué dans l'histoire, quoi.
Voilà, du coup, t'as ce monde-là qui t'est présenté au début.
Alors on oublie un petit détail, mais au centre du monde il y a un arbre géant qui s'appelle
l'arbre
monde. Non, l'arbre monde, et au sommet il y a un truc qui s'appelle l'Elysium, donc c'est censé être le paradis.
et qui est en gros voilà, la Terre promise, que les titans ont une durée de vie. Ils savent pas, ils arrivent à peu près à estimer quand est-ce qu'ils vont claquer. Donc quand ils claquent, t'as un continent entier qui sombre, y compris la population dessus. Donc c'est un petit peu critique. Et en gros, voilà, il y a cette légende d'un paradis perdu au sommet de cet arbre au milieu du bordel. Et la légende dit que si t'arrives à t'installer là-haut, bah t'es peinard pour un sacré moment.
Donc voilà, bah en fait ça sauverait l'humanité globalement.
Mais du coup, est-ce que ça rend pas le jeu vachement découpé ? Enfin, je veux dire par là.
Le découpage, oui, est plus.
C'est peut-être plus marqué. Oui, voilà, dans un Xenoblade X, c'était vraiment pratiquement sans couture de A à Z. Alors évidemment, il y a des grandes zones et puis mais les découpages sont pas finalement très marqués. J'ai l'impression que dans Xenoblade tout court, c'était le cas aussi.
Non, alors en fait, dans Xenoblade, c'était aussi découpé. Et ça se voyait moins dans le sens où finalement, le monde donnait l'impression d'être d'un seul tenant. Tu pouvais, enfin, il y avait pas besoin de, comment dire, les zones étaient reliées entre elles à un moment, enfin, toutes les zones étaient reliées aux suivantes, même si c'était très linéaire. Du coup, ça fonctionnait plutôt bien. En plus, tu avais tout le côté, ben, tu voyais en permanence les deux titans qui étaient face à face, vu qu'ils étaient figés. Et du coup, ça ancrait vraiment les différentes zones dans la réalité de ce monde. Et dans le 2. Et ça, c'est un défaut que j'ai retrouvé, enfin, c'est un défaut. C'est quelque chose que j'ai remarqué assez rapidement et qui m'a un petit peu déçu par rapport au premier, voire à X, qui pour le coup, lui, t'offrait une totale liberté, c'est qu'il y a un côté découpage des zones qui est beaucoup plus marqué, ne serait-ce que ben, tu peux pas, faut avancer dans le scénario pour accéder aux zones suivantes, qu'elles te soient accessibles tout bêtement, en fait. Il y avait moins cette impression dans le premier, même si c'était le cas globalement, et pas du tout dans X. Et moi, c'est peut-être un truc qui fait que, dans l'univers du 2 que j'ai moins aimé, c'est que finalement, ça marche pas aussi bien que ce qu'était Mira ou les deux titans qui étaient face à face. Et même si l'idée de reprendre les titans et en faire des animaux était sympa, moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient aussi bien réussi leur coup que précédemment.
Du coup, Mecton, ça t'a marqué aussi, cette histoire de découpage, parce que c'est vrai que ça fait un peu genre, t'as accès au premier titan, mais tant que t'as pas résolu tel truc de la quête principale, on te laisse pas prendre le bateau pour aller au deuxième.
Voilà, c'est un peu l'idée. Tant qu'on te dit pas, tiens, il faut aller là-bas, tu ne peux pas y aller de toi-même, quoi. Tu es enfermé sur ton titan jusqu'à ce que le scénario t'invite à aller sur le titan suivant. Après, rien t'empêche de faire des TP arrière pour explorer des zones que t'aurais pas vues, mais oui, t'es pas lâché dans la nature et tiens, vas-y, va où tu veux, quoi.
C'est d'ailleurs parfois un petit peu ridicule, puisqu'on te dit, oui, tu es enfermé dans tel titan, tu ne peux pas bouger, et en fait, tu appuies sur X et tu peux aller où t'as envie derrière.
Voilà, ouais.
En soi, c'est pas...
Ça peut sortir de l'histoire, ça, c'est vrai.
Ça reste un jeu, mais c'est vrai que ça fait partie des petits détails où, oui, quand on te presse, il dit, oui, ben, il te reste que X minutes pour sortir d'ici, ben, toi, tu te téléportes ailleurs, tu fais,
ouais,
ah, ok.
Tu vois ce que tu veux dire.
Voilà, d'accord, je suis revenu 3 heures après, quoi.
Oui, mais ça, c'est un peu l'open world à la Ubisoft, quoi. Vite, il faut que tu sauves le bateau, il est en train de brûler, puis tu peux aller faire 4 quêtes secondaires entre deux. Bon,
j'ai envie de te dire, c'est une habitude des JRPG. Hein.
Voilà.
Final Fantasy VII, tu pouvais passer 50 heures sur les quêtes annexes, il y avait la météorite qui était dans le ciel pourtant.
Oui, mais c'est pour te donner une impression d'urgence et de... Attendez, il y a peut-être un truc qui va pas.
Il y a des quêtes annexes.
Ça ne va pas, il y a des quêtes annexes. Du coup, là, en termes de déroulement de l'aventure, ça se passe comment par rapport, ça, par exemple, à Xenoblade ou Xenoblade
voilà,
X.
Voilà, ça, c'est la présentation de l'univers, de la grosse histoire. Et là-dedans, voilà, en fait, La grosse histoire, avec toute la géopolitique et du merdier, quoi. Et là-dedans, donc, tu joues Rex, petit récupérateur. Donc c'est des gens qui s'éclatent à aller récupérer des...
Voilà, c'est les gens qui passent au mois de décembre chez toi qui sonnent pour les étrennes.
Ouais,
c'est les
voilà.
récupérateurs.
Bon, ils vont pêcher des trucs dans la mer de nuages, il y a un petit commerce autour de ça. Et donc ce héros va être embarqué dans une mission à la con qui va en gros servir de fil rouge à tout le jeu. C'est ce que j'appelle la petite histoire, en fait. T'as cette petite histoire qui va sans arrêt s'entremêler avec la grosse histoire. En gros, tu as l'évolution... Enfin, ouais, ça paraît bateau à dire comme ça, mais t'as l'évolution des relations entre ton personnage principal et les autres qui vont avoir de sacrées influences sur le monde global et vice-versa.
Un truc classique de JRPG, en fait. Surtout, ce qu'on a oublié de préciser sur ce monde, et c'est quand même super important, c'est qu'en fait, il y a... Donc il y a les humains, et puis il y a un autre type d'être vivant qui s'appelle les lames.
Voilà.
qui en fait sont ce qui va donner en fait le pouvoir au personnage de pouvoir combattre et qui ont toute une importance dans le scénario puisque ça, sur de nombreux aspects en fait c'est le fait que les lames existent qui va créer qui est déclencheur en fait de différents conflits dans le scénario et une motivation des personnages. Et le jeu commence lorsque Rex donc est embarqué dans cette mission un peu chelou où il doit accompagner des mecs un petit peu louches pour faire un tour dans un vaisseau qu'ils auraient trouvé dans la mer de nuages. Et c'est dans ce vaisseau qu'il va rencontrer Pyra, qui est une lame elle aussi, mais apparemment une lame plus balèze que les autres, puisque tout le monde l'appelle sous un autre nom qui était de mémoire l'Aegis. Et qui en fait s'avère être apparemment une lame extrêmement puissante qui aurait eu un gros impact sur le monde des années auparavant.
C'est la Master Sword.
C'est un petit peu ça, c'est la Master Sword du jeu.
C'est faille de Skyward Sword.
Coupé.
Ouais. C'est trollé.
Bon, elle est moins chiante que faille. Beaucoup moins.
Y a pas de mal.
Mais du coup, le jeu en fait va tourner sur le fait que Rex va accompagner Pyra lorsqu'il veut aller à Elysium, dont on parlait juste avant. Et c'est tout. Enfin, la petite histoire finalement, c'est Rex qui veut aller à Elysium, mais comme Elysium est quelque chose qui a une très grande importance, bah, ça va aussi englober les différents conflits géopolitiques dont on a parlé plus tôt.
Et secouer un peu la poudrière. Ouais.
C'est ça.
D'accord. Du coup, en termes de, parce que là, on a campé un petit peu l'univers en lui-même, dans quoi on évolue. On a parlé un petit peu de la grosse histoire, donc la géopolitique, la plus petite histoire qui est Rex et sa lame qui essayent de s'en sortir dans cet univers. En gros, c'est à peu près ça.
Avec plein de questions sur d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle veut aller là-bas,
d'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 500 ans. Voilà, voilà.
Et puis aussi les histoires de ses différents compagnons, parce que comme dans tout bon JRPG, il va être accompagné d'autres personnages.
Les voilà. Shitty Friends.
Voilà. Bah, pour le coup, on s'y attache plus ou moins. Ça dépend des personnages, mais globalement, je les ai plutôt bien aimés.
Ouais. Le truc à savoir, c'est que les lames sont immortelles, là où les humains ne le sont pas. Et en gros, quand le propriétaire d'une lame, donc ils appellent ça un pilote, quand ce pilote meurt, la lame retourne à son état de cristal.
Un cœur cristal.
Voilà, et à son prochain éveil, elle aura perdu tous ses souvenirs. Ce qui paraît étonnant.
Elle reset à chaque
fois qu'on
pilote.
Voilà.
Quoi.
Mais ça, ce qui n'est pas le cas de Pyra. Pourquoi ? Blablabla.
D'accord, ok. Donc il y a effectivement un petit truc derrière. En termes de... Parce qu'on évolue donc dans cet univers-là, est-ce qu'au niveau level design, chara-design et tout ça, les choses sont aussi marquées que... Les continents étaient plutôt très marqués. C'est effectivement l'Empire industriel.
C'est typé,
un peu des tropes un peu classiques du JRPG, mais finalement, avec sept trucs vraiment différents. Est-ce que derrière, le chara-design suit ? Est-ce que l'ambiance musicale suit ? Est-ce que tout ça accompagne aussi cet univers-là ? Ou est-ce que c'est plus décousu ? Moi, de ce que j'ai vu, ça m'avait quand même l'air d'être un peu toujours le même truc. Quoi.
Alors, est-ce qu'on commence par les choses qui fâchent ou pas ?
Bah, tu peux commencer par les
allez,
choses Cara, qui fâchent.
Allez, Kara, c'est parti.
Alors, globalement, en termes de... Enfin, je commençais plus par l'univers, on est dans la même lignée que Xenoblade X. D'ailleurs, ceux qui ont joué à l'épisode Wii U au niveau des textures...
L'épisode quoi ?
L'épisode Wii U... Le futur épisode Switch, pardon. tu peux remarquer qu'au niveau du design des décors, des textures utilisées, de l'ambiance qui est créée, on est quand même sur des bases qui étaient quand même très solides du Xenoblade X et du premier Xenoblade, au point que je trouvais qu'au début du jeu ça faisait un petit peu déjà vu. C'est moins le cas par la suite où ils ont un petit peu plus d'inventivité. Mais globalement, ouais, en termes de décor, c'est sympa. Alors après, je suis pas toujours très fan de la façon dont tout est agencé. Ça fait un peu plus bordélique, alors, surtout après Zelda. On y reviendra après sur l'exploration,
ouais, mais c'est peut-être un peu compliqué.
Là, j'en ai chié.
Après voilà. Zelda, c'est peut-être un peu compliqué, quoi.
Je pense qu'après beaucoup de choses, après Zelda, beaucoup de choses sont devenues compliquées.
Oui, c'est un petit peu comment dire, Fisher Price, My First Open World.
Mais du coup, on a un monde qui se veut un petit assez réaliste, en fait, en termes de design. Enfin, c'est pas très cartoon, c'est un petit peu réaliste, mais tu sens qu'il y a un côté un peu stylisé.
T'as une faune un peu vivante. Je sais pas si t'as eu des scènes comme ça où t'as un prédateur qui bouffe une proie juste devant toi.
À ça, j'avoue, j'ai pas dû faire attention, mais ouais, globalement, comme dans les précédents, les monstres vivent un petit peu leur vie dans leur coin et en fait t'agressent que si tu rentres sur leur territoire. Ce qui d'ailleurs, j'étais un peu déshabitué à ça, c'est qu'il faut déclencher le combat en fait pour pouvoir combattre. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu troublant. Mais oui, il y, y a un univers qui est très travaillé, même au niveau des designs des mondes. Hein, je suis quand même plutôt, plutôt heureux de ce que j'ai vu. Ça fait des jolies cartes postales. Mais du coup, je trouve que par rapport au design, le character design qui se voit beaucoup plus dans ce qui se fait actuellement dans l'animation japonaise avec des trucs assez simples, bah, ça jure un petit peu. Et malheureusement, ce n'est pas toujours de bonne aloi. Il suffira juste de regarder le design de Pyra, l'héroïne, qui, à mon sens, fait partie des pires trucs qu'on ait pu voir dans l'animation japonaise. Je trouve extrêmement dommage qu'on ait ça dans un jeu Nintendo.
Ouais, pour le coup, c'est 2017. Un peu con parce que le perso est très travaillé et très intéressant. Quoi.
Bon, on a un perso qui, en soi, est plutôt intéressant, plutôt attachant aussi. Bon, c'est aussi un petit peu le but de l'histoire.
Et doublé à la perfection.
Alors, version anglaise ou version japonaise?
J'ai joué qu'en version anglaise, j'ai trouvé le doublage au top. Quoi.
Je fais la version japonaise, j'avoue que j'ai bien aimé aussi.
Mais alors, je tiens à vous préciser qu'il y a Marianne Cléden sur Twitter qui dit qu'elle s'attendait à un débat plus violent et qui réclame du sang.
Attends.
Oh, attends, c'est parce que non,
ça va venir, ça va venir.
Non, ça va venir après.
on n'a pas encore picolé là.
On n'a pas encore picolé, exactement.
Puis il a l'alcool mauvais en Tix. Hein,
oh, ça va. Non, bah, pour le coup, moi, la pire partie du jeu, c'est un peu tous les designs, notamment le côté un peu glaireux.
Oula, enfin, carrément.
Que ce soit les designs, alors le design principal ou des lames rares que tu peux débloquer après, qui ont été confiées à des illustrateurs invités pour l'occasion. Et il y en a, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et je sais pas pourquoi c'est là.
Tu penses à laquelle en la décrivant vite fait.
Quoi. Alors, j'en pense à deux. Donc, il y a la celle à poil avec une casquette nazie et celle
Newt,
à poil,
ouais.
Et celle à poil qui fait de la neige.
Eh ben, celle-là, je l'ai pas.
Ça, c'est l'instant game blog.
Voilà, donc, attendez. Il y a des lames à poil. Est-ce qu'elles sont masculines? Est-ce qu'elles sont féminines? Est-ce que
non, ah, globalement, les designs qui vont choquer seront féminins.
Oh. Et ça, ça va choquer pour quelle raison? C'est parce que c'est vraiment
c'est surabusé. Non, il y a vraiment des trucs surabusés. Ça, je te l'accorde. Après, à côté de ça, tu as des mecs qui ont fait des trucs vraiment classe.
Ah non, il y en a que j'aime bien. Typiquement, il y a un samouraï qui a été fait par le mec qui a fait les Fire Emblem 3DS, enfin les deux premiers. Je trouve vraiment extrêmement cool parce que le mec a la classe, ses attaques sont cool et c'est globalement un bon design. Mais c'est vrai qu'à côté, faut se taper des trucs un peu nazes. C'est un peu dommage, quoi.
Ouais, tu trouves ça inconsistant, quoi.
Bah, inconsistant et puis en plus.
Je dirais pas inconsistant,
c'est de mauvais goût pour moi.
Hein. Il manque une ligne directrice, quoi. Du coup, le fait tout le monde a pu proposer ce qu'il veut, c'est le bordel.
Voilà, le fait d'avoir que des dessinateurs invités, ça n'a pas dû aider quand même, parce que ils respectent tous à peu près, hein, une espèce de charte ou de ligne directrice de design ou de code couleur. Non, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a fait Sangoku et à côté un autre gars qui a fait Candy, quoi.
Ça, ouais, c'est à peu près ça.
Ah putain, oui, d'accord, ok. Donc on est vraiment dans un truc à chier.
Tu vois aussi les différences au niveau des dessins. Il y en a qui sont plus travaillés que d'autres. C'est ouais, génial, quoi. Ça manque un peu de consistance globalement. Et puis en plus, quand derrière dans les animations, t'as la fille avec la lance qui se met à faire du pole dance dans son attaque finale, tu te prends un peu les mains dans la tête et tu te dis pourquoi je joue à ça, quoi.
Non, tu te prends, c'est pas avec tes mains, tu prends autre chose. Attendez.
Attends,
ça m'a fait marrer.
Ça non mais à la limite, il y a un côté, si le côté un peu autodérision est assumé.
À certains moments, il l'est clairement. À d'autres, c'est peut-être plus douteux. Mais
tu sais pas trop, parce que même dans les dialogues du jeu, des fois, t'as des personnages qui l'assument complètement, enfin qui font un peu dans ces tendances-là, et d'autres qui leur disent non mais tu fais n'importe quoi, mais ils rempilent 2 heures après et tu dis mais arrêtez quoi. J'en peux plus. Arrêtez ça.
Ça m'a fait marrer.
Bon, après, c'est toujours pareil. Si tu le prends au second degré, c'est le genre de truc. Clairement, si tu le prends au second degré, ça peut être finalement bon. C'est pas grave. Ils se sont loupés. Ils en avaient plus ou moins conscience. Ils essaient de faire un peu d'autodérision et ça passe. Si tu le prends au premier degré, c'est sûr que ça va être
sans trop spoiler. Tu as un boss où tu le vois. Enfin, tu le vois sur un screenshot. Tu te dis merde, ils ont pété un câble, quoi.
Alors, est-ce que c'est le boss du chapitre 4?
Voilà. Tu le vois en jeu avec la musique et les dialogues. Tu te dis c'est juste génial.
Pour le coup, lui c'est une parodie. Enfin,
c'est une parodie de Goldorak.
C'est une parodie de Goldorak et tout ça.
Ah,
là, j'ai vraiment ri parce que pour le coup, ça collait bien au perso et tout. Voilà. C'était pas trop lourdingue. Et c'est pas comme le moment où tu dois aller sauver une des héroïnes qui a été emprisonnée dans un vaisseau et que pour monter dans le vaisseau, les mecs utilisent le grappin. Le héros a du mal à tirer l'héroïne.
Ouais.
A du mal à tirer.
Ça me fait marrer, moi.
Putain. Et dit ah bah c'est parce qu'elle est trop lourde. Et ouais, génial les gars. Merci. Attends, vous voulez pas se mettre copine?
Bon, Tout ça pour en venir à la... parce que là maintenant qu'on donc on a des personnages, on a un univers, mm-hmm. on a posé une musique, une ambiance, un chara design un petit peu à chier.
Et on a été très calme en fait, et là on va pouvoir passer au sang, à la baston.
Il est pas à chier le chara, il est varié.
Il est discutable.
Il est de mauvais goût.
Il est pas toujours. Alors ce que j'ai compris quand même, si j'essaie de modérer un petit peu, c'est que Antix, il y a quand même des choses qui t'ont choqué en termes de chara design. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont plutôt réussites. Donc c'est juste que c'est très mitigé, quoi, en réalité.
Bah, disons que par rapport au précédent, où clairement le chara design dans le précédent était nul à chier, hein, on va pas se mentir, mais c'était pas dans ces instants de fanservice et de design un peu graveleux.
Tu crois que c'est le choix technique là, de faire des persos un peu cel-shadés?
Non, ce sont lâchés. Genre, ça. Parce que dans Zelda, elle a pas des gros seins, Terra.
Ouais. Tu veux dire qu'il y a des poses subjectives?
Non, c'est un choix artistique. C'est
attends, en même temps, quand Zelda se penche dans la cinématique de fin, tu vois que... elle est sick, quoi. Je veux dire, il y a... Là, tu vois Link qui bave un petit peu sur le contreplan suivant, enfin bref.
Et puis après, tu vois le joueur qui bave un petit peu dans le reflet de la télé et...
C'est très compliqué.
Bref.
Passons donc au système de jeu, au système de combat. Alors moi, qui ai fait 13h20 exactement de Xenoblade X, dont 2 bonnes heures à m'acharner sur un truc où j'étais pas censé avoir le niveau, il y avait tout le chat de Twitch qui était là genre « mais tu vas jamais y arriver, t'as pas le niveau », et j'ai baisé le système, et oui les gars, j'ai fait tomber un ennemi derrière une espèce de falaise ou je sais pas quoi, et je l'ai défoncé, il pouvait pas me toucher. Bref. Donc voilà, est-ce que c'est finalement le même système à base d'art, en fait, enfin avec des icônes. Alors je vais parler avec mes mots parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement basique. C'est des icônes et en fait, quand elles sont noires, on peut pas les activer. Quand elles sont toutes illuminées, on peut les activer. Et en fait, en fonction des couleurs qu'on fait, eh ben ça fait des dégâts. Et moi, c'est le seul truc que j'ai compris. Du coup, je suis content, mais j'ai compris déjà ça. Mais donc, du coup, alors... c'est un système comme ça où c'est. Alors, il y a Mecton qui a fait un super article sur comment marche le système de combat.
Oui, alors il a fallu le faire parce que ces abrutis n'ont pas rendu les tutos revisionnables.
Voilà. Néanmoins, voilà. Est-ce que vous pouvez nous essayer de nous faire un petit résumé du système de jeu et du système de combat et ensuite éventuellement de le critiquer, voir ce qui est bien, ce qui est pas bien par rapport éventuellement aux autres. Voilà. Mecton, je te laisse aller pour le résumé.
Je m'y colle, voilà. Alors, attends, je me fous mon pense-bête sous les yeux, blablabla. Bla, bla. Alors, le système de combat, donc ça va être un combat automatique. A priori, c'est un classique de la série, je pense. C'était au moins comme ça sur le premier.
Oui, oui.
Donc, tes auto-attaques se balancent automatiquement. Chaque auto-attaque va charger des arts. Donc,
alors, ça... ce qui est nouveau par rapport au précédent, où elle se chargeait au fil du temps.
D'accord. Oui, non, là, c'est vraiment sur auto-attaque. Donc c'est automatique mais pas trop quoi. De balancer un art, tu le balances quand tu veux, mais si tu le balances juste après une auto-attaque, t'as un dégât bonus. Ça c'est pour te maintenir éveillé devant le combat.
Il y a tout un système d'annulation de coups qui est très simpliste mais qui du coup permet vraiment de faire des enchaînements et d'accélérer les combats tout bêtement.
Voilà. Donc tu as un niveau d'entente. Oui, alors les arts sont fonction de la lame qui est équipée dans ton combat. Tu peux en avoir jusque, spoiler, 3. Ça ira progressivement au fur et à mesure du jeu, hein, vous inquiétez pas. Donc 3 à la fois sur chacun de tes pilotes et 3 pilotes maxi dans ton groupe.
9 lames différentes.
Voilà,
donc tu as 3 pilotes, tu as 3 lames par pilote maximum, ça fait 9 lames au total et chaque lame va te donner accès à des arts, donc des auto-attaques différentes.
Alors, en fait, c'est
des pouvoirs, en fait.
Des pouvoirs différents, d'accord.
En fait, chaque lame a une arme qui est attribut de base que tu peux pas changer. Donc, par exemple, Pyra, c'est une épée, et plus tard, t'auras un mec avec une hache, t'auras une nana avec un katana.
Le gros chacha, c'est un anneau.
Voilà, le gros chacha, c'est un anneau. Et en fait, toutes ces armes différentes... à chaque arme sont liées 4 arts différents, tu peux en utiliser que 3 en combat. Et du coup, en changeant de lame, tu vas changer d'art disponible pour pouvoir varier ce que tu peux faire, sachant qu'il y a des armes qui sont plus spécialisées dans la défense, d'autres dans le soin et d'autres dans l'attaque.
Voilà. Ça te permet en gros de te faire des équipes. Ce qui marche le mieux, il n'y a pas de surprise, hein, c'est tank, healer, DPS.
Voilà, c'est un classique, on ne change pas ce qui marche.
Voilà.
Moi, j'avais essayé sur Xenoblade X, tank, ça marchait bien aussi.
Ça marche, mais c'est plus long.
Ah oui, mais ça, ouais. Ça après t'es un putain de 5 APV et globalement voilà. Le mec en face...
Mais le moindre lapin, tu vas le tomber en 20 minutes, ça fait chier.
C'est un peu le concept.
Bon, ça sent que là tu mets aussi 20 minutes à l'étude.
Au début, non, au début vraiment, ouais, je suis d'accord, au début c'est long, mais après quand tu commences à maîtriser le truc et à optimiser ton DPS, tes dégâts, ça va mieux. Ça va mieux. C'est pas forcément aussi rapide que ce que je voudrais, mais ça va beaucoup mieux.
Alors, si je peux me permettre, moi ça m'avait l'air d'être... Alors je trouvais que Xenoblade X était déjà relativement
confus. On n'a pas
confus.
Fini, hein, sache-le.
Alors vous avez pas fini, mais j'ai l'impression que c'était très confus. Là, j'ai l'impression qu'en termes d'interface, c'est pire. Alors je sais pas
non.
Si... Non, c'est pas pire.
Non, à l'usage... Bah, à regarder, c'est peut-être le bordel. À jouer, j'ai trouvé ça assez confortable. En combat, hein, je parle. On parlera des menus autres plus tard. T'as une objection, Tix, c'est ça ?
Non, mais alors, okay. le combat, oui, il y a... Enfin, fini, mais il y a des petits trucs aussi à rajouter sur les combats.
D'accord. Alors, j'en étais où ? Oui, donc les arts. Donc, tes arts de l'âme. Quand tu les déclenches, ça augmente le quatrième art, donc celui qui n'est pas déclenchable tel que tout de suite. Et ce quatrième art, il a 3 ou 4 niveaux selon le niveau d'entente que le pilote a avec sa lame. C'est une petite dimension sociale qu'il y a dans le jeu entre les pilotes et les lames. Donc une fois que tu auras chargé le niveau 1 d'une lame, tu peux le balancer. Ça t'ouvre les portes d'un éventuel combo d'éléments avec une autre lame qui, elle, devra déclencher son art de lame de niveau 2 qui te permettra alors d'enchaîner le combo avec le niveau 3 d'une autre lame d'un autre élément.
Et arriver au niveau 3 te permet de déclencher une super attaque qui va faire beaucoup de dégâts et bloquer une capacité de l'adversaire. Alors, une capacité de statut type projection, type baisse d'entente ou appel de renfort.
Et là, en parlant de ça, je me dis que c'est un miracle que les mecs aient réussi à pitcher le truc et que ça finisse tel que dans le jeu.
Ben, en soi, en fait, une fois que tu l'as appréhendé, Le système devient vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités.
Et d'apprentissage. Pour les chaînes d'éléments, tout ça, il n'y a rien qui t'est indiqué tel que. Quoi. C'est à toi, joueur.
C'était relou, par contre.
Au début, j'ai trouvé ça relou et à la fin, tu as des automatismes qui viennent.
Oui, tu commences à t'habituer. Ce qui fait qu'en fait, les combats deviennent assez agréables. Tu as des stratégies qui rentrent bien. Ceci dit, voilà, comme on l'a mentionné au début, les combats au début du jeu sont relativement longs parce que le jeu met beaucoup de temps avant de te débloquer tout ça.
Ouais.
Typiquement, la troisième
lame. Ouais.
Voilà, la troisième lame, tu pourras l'équiper que à partir de la fin du chapitre 3. Les combos de lame, on va t'en parler au début du chapitre 3. Je crois que même les combos de pilote, donc qui sont une autre variante. Pour ceux qui ont joué au premier Xenoblade, en fait, c'est la suite. Tu déséquilibres, tu fais tomber. Auxquels ils ont rajouté l'éjection et la mise au sol. La mise au sol qui sont un autre type de combo. Et en plus, si tu as des combos de lames en même temps, donc des combos élémentaires, tu vas pouvoir combiner ça pour faire encore plus de dégâts, obtenir des bonus. Donc en fait, ça rend les combats... alors, pas franchément des ennemis de boss, parce que c'est pas très compliqué à tuer, mais pour tout ce qui va être monstres uniques qui sont de retour ou boss, ça rend les combats vraiment très sympas parce qu'il y a moyen de faire des très 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 gros dégâts. Notamment avec une des dernières capacités qu'on t'apprend qui est l'attaque de groupe.
L'enchaînement, ouais.
Voilà. Où là, en fait, donc, tout le concept des combos de lames, c'est d'arriver au troisième niveau pour créer des orbes. Et quand tu déclenches un combo de groupe, donc comme on pouvait le faire dans le premier Xenoblade, là, l'idée, en fait, c'est d'utiliser les attaques de ces lames pour briser ces orbes. Et donc, avec un jeu d'histoire élémentaire, c'est-à-dire qu'un élément opposé à l'orbe va la briser plus vite. À chaque fois que tu brises une orbe, tu peux faire un tour de plus avec toutes tes lames, tu augmentes les dégâts que tu fais, et en fait, à la fin du jeu, quand tu maîtrises ça, si tu gères bien ton combat, tu mets 4-5 orbes sur un mec, tu déclenches l'attaque de groupe, et tu lui retires la moitié de sa vie, et il est fini.
Carrément, oui.
Avec des gros chiffres à base de 2 millions de PV enlevés en une attaque, des trucs qui font très plaisir. Ça fait partie des moments assez satisfaisants du système, où quand tu les maîtrises, tu fais vraiment des trucs très très impressionnants à l'écran et en termes de dégâts. Et ça devient plutôt satisfaisant d'exploser les ennemis comme ça, quoi.
Et du coup, par rapport à Xenoblade 1 et Xenoblade X, je me permets une question de novice. Le résultat global est plutôt satisfaisant, je veux dire, en termes de possibilités, en termes de... Moi, à vous écouter, j'ai quand même l'impression que le système de combat, il est plutôt bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de gros ratés, il est peut-être un peu lent à démarrer.
Voilà,
il est lent à démarrer. Ça met du temps pour avoir les... les capacités qu'il faut, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on les a, c'est quand même plutôt satisfaisant.
Oui, après, ça fait aussi que les ennemis ont quand même beaucoup de points de vie et en général mettent un peu de temps à tomber. Mais à mon sens, un des soucis du système de combat n'est pas vraiment lié au combat en lui-même, mais à la façon dont on obtient les lames. Donc on est intégralement dépendant des lames pour combattre, pour les arts et compagnie, comme on l'a expliqué. Et en fait, dans le jeu, il y a une espèce de mécanique un peu loot box, alors complètement gratuite, mais en fait, toutes les armes sont tirées au hasard. Toutes les lames que tu vas obtenir sont tirées au hasard. Et moi, pour moi, c'est un truc vraiment gênant parce qu'en termes de stratégie, c'est compliqué. Parce que, en fait, chaque lame, pour chaque lame, en fait, tu vas avoir un élément
chapon, ouais.
et une arme. Ouais. Tu vas avoir un élément et une arme qui seront attribués automatiquement. Et quand tu as besoin d'aider, comme en plus, les lames sont bloquées sur un pilote particulier, quand tu as besoin d'être flexible, d'avoir une lame précise sur un perso pour pouvoir faire pour que ta stratégie fonctionne, bah, en fait, c'est juste extrêmement énervant de pas tirer celle dont tu as besoin. Quoi. Et moi, ça fait partie des défauts du jeu, c'est-à-dire qu'on a un truc qui est plutôt complet, plutôt complexe, qui demande aussi un peu de préparation, et à côté, on a un outil qui, en fait, dépend uniquement de l'aléatoire, et qui est pas énormément frustrant, parce que tu le fais pas tant que ça, mais quand tu as vraiment besoin d'un truc précis et qu'il n'y arrive pas, là, c'est vraiment relou.
Bah ça rejoint un petit peu les jeux de société dans lesquels t'as un truc où c'est stratégiquement très intéressant, et puis au milieu de ton tour, t'es obligé de faire un jet de dés pour faire je sais pas quoi, et en fait, là, c'est complètement le hasard. Par exemple, mais je connais plein de jeux de société comme ça où les trucs sont très intéressants et t'as un facteur hasard qui est mis à un endroit qui n'a aucun sens et le truc part complètement en couille parce que, en fait, si t'as pas de moule au dé, basiquement, bah, t'es mort. Même si tu joues très très bien, bah, tu te fais niquer.
Alors, on n'en est pas à ce stade, évidemment, mais...
Ouais. Pour défendre le truc, le côté random, il y a des moyens de le forcer un peu. Après, je suis d'accord, si vraiment tu as besoin d'une capacité particulière sur une lame, coucou la quête de Poppy, là, c'est vraiment la merde. Voilà.
Bon. On va finir avec le divulgachi, donc pour les gens qui n'ont pas fini le jeu, veulent.
Il y a peut-être des trucs. Attends, il est. Ouais.
T'as des choses à rajouter, vas-y. Non, parce que ça commence à faire tard, mais vas-y, tu peux y aller.
Deux, trois petits trucs sur le jeu, en fait, qui m'ont vraiment gêné dans l'expérience. Déjà, on trouve encore des côtés un petit peu complexes du système de Xenoblade X, avec notamment au niveau des lames, des trucs à sortir pour affiler des capacités. En fait, au bout de 3 heures de jeu, j'ai abandonné de m'y intéresser parce que c'était pas intéressant, j'en avais pas besoin.
On parle les cristaux, les cœurs là.
Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, moi, ça
j'y suis retourné en fin de game, ça m'a facilité 2-3 trucs.
C'était pas très intéressant. Il y a un système de progression à base de sociogramme qui est en fait une espèce de mini-achievement qui était plutôt réussi.
Du coup des quêtes associées à chaque lame. Il y en a des cool.
Ouais, parce qu'on a des lames, enfin, les lames exceptionnelles ont le droit à des quêtes un petit peu particulières.
Une petite backstory.
Voilà. Et en fait, et t'as tout aussi un système de quête à base de mercenaires qui permet justement d'engranger très facilement l'XP et de l'argent pour progresser. Donc ça, c'est plutôt cool. Si t'as la flemme de déclencher tous les combats, bah, tu peux quand même te faire de l'XP assez facilement avec ce système de mercenaires. Ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, pour faire tout ça, faut se taper l'interface absolument nulle à chier. où on te met... quand le jeu est sorti, le raccourci... d'habitude, le bouton X...
Putain, oui.
Le bouton X, ça sert à ouvrir les menus dans les RPG. Et ben là, c'est le raccourci pour le voyage rapide, qui est le seul moyen d'afficher la carte. Et au début du jeu, fallait choisir le continent, choisir le lieu sur le continent pour enfin afficher la carte. C'était horrible. Et en plus, la carte est illisible. Donc ça, c'était pour l'exploration, c'est insupportable. Et ça fait partie des trucs qui, me bouffent l'expérience, surtout quand tu passes beaucoup de temps dans les menus du jeu.
Rien à ajouter, la carte est à chier.
Voilà, donc ça, il y a des vrais problèmes d'interface qui, je trouve, n'étaient pas aussi présents dans les épisodes précédents. J'ai gagné beaucoup en exigence depuis, ce qui est aussi possible. Hein. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, toute la partie exploration après Zelda, avoir un personnage qui galère à monter un talus de 2 mètres de haut avec un saut, ça fait pitié. Et le level design est clairement pas aussi bon que ce soit Zelda ou même par rapport à Xenoblade X. Je l'ai trouvé beaucoup moins travaillé et réussi, et du coup l'exploration est un tout petit peu plus énervante.
Je peux pas comparer, mais...
Du coup, maintenant qu'on a fait l'italien, on va finir avec le scénario. On a déjà brossé un joli tableau d'ensemble, je trouve, avec vraiment ce qui était bien, ce qui était réussi, ce qui était moins réussi.
Oh tiens, ici j'ajoute juste vite fait, c'est peut-être cliché RPG Jap pour le coup, mais tous les méchants, je les ai trouvés vraiment intéressants. et leur sortie de l'histoire.
Alors, est-ce qu'ils ont tous les cheveux longs et qu'ils sont blonds?
Alors, non. C'est le mec qui a fait les designs de Final Fantasy VII qui a fait les méchants. Oh, c'est merde. Vrai, c'est les meilleurs designs
c'est
du jeu.
Moura,
et c'est les meilleurs personnages du jeu.
Et voilà, toute leur sortie d'histoire, alors quelle qu'elle soit, je dis sortie d'histoire, je les ai trouvées excellentes.
Globalement, j'étais très satisfait des méchants du jeu, et alors beaucoup plus que des héros du coup. J'aurais préféré jouer les méchants.
j'étais mais voilà, avec... tu es dans un RPG Jap, donc les méchants, leur manière d'agir, c'était expliquer pourquoi, tu arrives à les comprendre et tu te prends d'empathie pour eux. Quoi. C'est... Je trouve ça excellent.
Oui, pour le coup, il n'y a pas de côté il y a pas de côté manichéen.
De très très méchant, hein.
Il y en a un qui est très très méchant, globalement, mais ouais, c'est assez mais rare.
Même, si on pense au même, la manière dont son histoire se termine, j'ai été touché, quoi.
Non, mais oui, donc globalement, je suis assez satisfait des méchants.
Vous avez le droit de divulgâcher à partir de maintenant, vous avez le droit de spoiler puisque vous parlez du scénario, vous êtes parti pour parler des méchants, donc le scénario global, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport alors, aux épisodes précédents, et on va dire, en soi, est-ce que le truc arrive à peu près à se tenir droit tout seul? Moi, j'ai compris que l'univers était assez morcelé, est-ce que le scénario, pareil, est assez morcelé, finalement, t'as un boss par titan,
non, pour moi, le scénario,
et voilà,
c'est
où ça se tient plutôt bien.
Moi, le scénario, c'est précisément ce qui lirait tout le tout, quoi. Qui va t'expliquer pourquoi ce monde est morcelé comme ça, pourquoi il y a des gens qui peuvent pas se piffer. Un délire à la Star Wars, parce qu'il s'est passé un truc il y a quelques années qui a encore des répercussions aujourd'hui. Pourquoi il y a tels choix qui ont été faits dans le passé, quels impacts ça a aujourd'hui, comment on peut essayer de changer ça, est-ce que c'est pas trop tard. Enfin voilà, j'ai vraiment été embarqué dans ce truc-là, quoi.
Globalement, le scénario, il n'y a pas trop de zones d'ombre.
Non, tout est...
C'est pas Xenoblade X qui se finissait sur un cliffhanger absolument horripilant.
Ah oui, en fait, tous les humains, c'est...
Bref.
Je peux pas le dire.
Bref. Enfin, pour le coup, par rapport à...
Vous avez le droit, hein, on a dit qu'il y avait du spoil. Hein, on a prévenu. Mais,
alors, par rapport à Xenoblade X, ouais, le scénario se tient de bout en bout. Il y a des petites références au premier Xenoblade.
Des petits clins d'œil, ouais.
C'est même plus du clin d'œil à ce stade. Hein.
Ah, tu parles de la fin? Oui.
Okay. Je parle de la fin où, oui, globalement, oui. C'est plus du clin d'œil. Hein,
non,
c'est voulu. Je laisse quand même la surprise à ceux qui n'ont pas fini le jeu et qui ont joué au premier.
Ouais, c'est particulier, mais...
Ça se tient en soi. J'ai pas trouvé que c'était vraiment indispensable pour...
Pour moi, du coup, tu vois, c'est peut-être ça qui m'a un peu éjecté du délire. Je me suis dit, pourquoi ? C'était pas nécessaire, quoi, mais...
C'était peut-être un petit peu simple. En fait, globalement, il n'y a pas vraiment de grosse zone d'ombre dans le scénario. Tout se tient du début à la fin, au niveau de l'histoire. Moi, ce qui est juste, c'est qu'en
tout
fait...
T'es motivé, ouais.
En fait, mon problème peut-être avec le scénario, alors c'est peut-être dû au fait que j'ai joué au précédent Xenoblade, à d'autres RPG ou même à Xenogears.
Ouais, vas-y, intéressant.
C'est que globalement, moi je trouve que c'est un jeu qui n'a pas grand-chose à dire. En fait, le scénario n'est pas spécialement intéressant.
Parce que c'est des choses que tu avais déjà entendues, peut-être, c'est ça.
C'est des choses, pour moi, qui sont déjà vues, qui ont été faites mieux avant.
Ok.
Qui étaient plus. Enfin, le scénario en soi. Est intéressant, mais ce qu'il dit l'est beaucoup moins, à mon sens. Enfin, j'ai pas été aussi traumatisé, mais il y a pas un moment où le scénario va vraiment te renverser la tête par rapport au monde que tu connais. Là, okay. pour le coup, j'ai pas été surpris. Enfin, ce qui devait être une des grosses révélations, mais pas spécialement surpris.
Le méchant.
Même pas le méchant, parce que lui je l'avais grillé dès que je l'ai vu.
Il se grille tout seul très très vite, quoi. Ouais. Tu as un flashback où tu comprends que ça va être bizarre. Mais...
Oui, non, et puis en plus je connais le Takahashi et son amour pour la religion.
D'accord.
Donc je m'en suis un petit peu douté. non, et puis même les lieux que tu découvres à la fin du jeu à partir du chapitre 8, globalement, moi au chapitre 1, j'étais à peu près sûr qu'on allait visiter un truc comme ça, parce que j'ai vu le vaisseau, je fais oui, bon, je sais, on va finir à un moment. Et c'est vrai que ça manquait d'éléments qui traversaient un petit peu la tête, comme c'est le cas dans Xenogears, ou dans le premier Xenoblade, où en fait, quand tu découvrais que certains mécons que t'affrontais, c'était des humains dedans, et qu'en plus, dedans, il y avait ta copine qui est morte au début du jeu. Dans l'un d'entre eux.
Oui, ouais, c'est vrai.
Ou pour le coup, ça je l'avais vu avant, mais sur le coup, ça te faisait pas mal repenser le monde et ça manquait en fait dans ce Xenoblade. Ça fait voilà, ce qui fait que le scénario se tient, mais je le trouve pas spécialement marquant. Et je pense qu'en fait, dans 3 mois, je l'aurais oublié, quoi. C'est...
Ah ouais.
Okay. J'ai pas eu cette impression de folie. Alors,
pour parler de mon côté, ouais, c'est les Ouais, c'est un RPG très très shonen. Donc le héros, il va.
C'est très shonen. Voilà. Et...
le héros, il va sans arrêt là le pouvoir de l'amitié, machin, blablabla.
Et je le trouvais même moins intéressant que Skull, qui était déjà assez.
Ouais.
Que Shulk, pardon. Qui était déjà assez cliché, mais qui avait.
Pour moi, Rex, il était là juste pour te balader dans l'histoire, et c'est les autres personnages qui étaient plus intéressants. Et bon, c'est peut-être voilà.
Je suis assez d'accord là-dessus en fait.
Au moment où j'ai reçu le jeu, j'étais peut-être très réceptif à ça, mais tous les dialogues autour de Jean, ce qui lui arrive, pourquoi il fait ça, et moi ouais, je lui dis la manière dont son histoire se termine, j'avais la gorge serrée quoi.
C'est vrai que pour le coup, lui, j'avais pas mal d'empathie pour lui, et c'est vraiment un personnage.
Voilà, c'est
qui me plaisait, quoi.
Typiquement le super bâtard, et puis plus l'histoire commence, plus tu le comprends, et à la fin ça te fait chier qu'il quitte le jeu.
C'est clair.
Un petit peu comme Noctis.
Non, alors, tu vois, je voulais pas en parler, mais FF15 c'était le précédent JRPG que j'ai fait, et putain, c'est peut-être juste ça, mais tu balances Xenoblade 2 juste après, je dis bordel, FF15 ça aurait dû être ça, quoi.
J'ai pas joué à FF15, donc je peux pas comparer. Là, pour le coup.
Voilà, c'est...
Après de ce que je comprends, de ce que vous me dites, c'est quand même. Il y a des choses intéressantes dedans. C'est pas un scénario. C'est pas quelque chose qui marquera. Enfin, Antique, j'ai l'impression que ça va pas te marquer parce qu'effectivement, le truc est quand même bien mené, bien raconté.
Il est très généreux, en fait. Que ça soit dans la DA, le nombre de personnages, les musiques, les petites histoires, son écriture, il est vraiment très généreux. Donc, il va te proposer plein de choses. Bon, il y en a 80% qui m'ont plu. Antix, toi, c'est peut-être moins. Mais tu peux pas enlever au fait que le jeu, il est balèze, quoi. Il est grand.
Il y a beaucoup de choses à faire, mais... Alors, moi, c'est peut-être le paradoxe de ce jeu. C'est que je l'ai trouvé aussi, finalement, un peu creux, en fait. Il y a beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui... Il y a finalement peu de choses. Il n'y a pas tant de choses que ça que j'ai trouvé consistantes, tu vois, par rapport à Breath of the Wild... où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de contenu, et bon, même si certains moi, m'intéressent pas, comme les Kurugi, Breath of the Wild, j'avais l'impression que la majorité des actions que je faisais menait au fait que j'allais pouvoir affronter Ganon à la fin.
D'accord.
Et donc Xenoblade 2, ben, tout ce que je fais mène pas forcément, me donne pas l'impression que ça va me permettre d'aller à Elysium après, quoi.
Oui, non, mais c'est la plupart des quêtes annexes, c'est du remplissage, mais...
C'est souvent ça, mais...
Mais tu en as certaines, moi, qui m'ont parlé, quoi. Toute la quête autour de Vess... Le mec essaye de laisser un peu son testament pour libérer sa lame et tout, je trouvais ça super touchant, quoi.
Bah alors en fait, les quêtes annexes, moi justement, j'appuyais toujours sur A comme un gros bourrin. Parce... voilà, c'est ces moments-là où je sais qu'il y avait des trucs un peu creux, c'est qu'en fait, ces contenus-là m'ont pas intéressé du tout et je m'en suis très vite détourné pour finir le jeu, en fait.
D'accord.
C'est une impression que j'ai assez globalement sur ce Xenoblade, c'est que je me suis senti beaucoup moins impliqué que dans les deux autres.
Okay.
Bon, dans le X, c'était mon propre personnage dans un robot à conquérir une planète, forcément je vais me sentir impliqué, mais... C'est, voilà, ça fait partie des raisons qu'en fait, qui font que le jeu, je l'ai bien aimé, en fait, mais ça reste une grosse déception pour moi par rapport à ce que j'ai pu connaître en JRPG ou dans la série Xenoblade précédemment. Okay. Quoi.
Je dis, ouais, je revenais de loin, hein, FF15 juste avant... Et ouais, du coup, de m'être attardé un peu sur pas mal de quêtes annexes comme ça, ça m'a peut-être permis de bosser la consistance du monde et ouais, non, je me suis vraiment plu dedans, quoi.
Eh bien, messieurs, je vous remercie. Je pense qu'on peut déclarer un vainqueur au point. Antix, hein, comme prévu.
Tu trouveras mon chef sur ton bureau d'ici deux jours.
Mais voilà, c'était intéressant de voir se confronter les deux points de vue. C'est-à-dire finalement.
On n'allait pas changer d'avis, oui.
Ça, je m'en doutais un petit peu. Mais ça vous a au moins permis de voir ce qui pouvait plaire ou ne pas plaire. Et je pense que j'espère en tout cas que les auditeurs qui nous ont suivis et qui nous écoutent peut-être en ce moment en podcast, les gars, si vous nous écoutez, attention à droite, attention, il y a un virage. J'aime bien faire ça.
Le gros bâtard.
Je kiffe faire ça.
Péter le vilebrequin.
Quelle était la cause de votre accident? Il y a le connard qui présentait le podcast qui a gueulé attention virage à droite, j'ai tourné et je suis fini dans le fossé.
Ouais, c'est un peu ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis d'appréhender Xenoblade. C'était une émission un petit peu longue, mais c'est quand même un jeu qui est pas léger, donc il fallait arriver à en parler de manière très globale.
On a loupé beaucoup de choses.
On a gratté seulement. Ouais, ouais.
Et je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Ce que je vous encourage, c'est à aller relire le petit article de Mecton sur le système de combat. Moi, j'ai rien compris, ce qui veut dire qu'il est très profond. Parce que je suis un vrai con. Je suis pas capable de comprendre un truc comme ça. Mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, en fait, voilà. C'est le truc que t'as fait sert plus de finalement de presque de carnet de notes plus que d'explications. C'est ça, quand on est dedans, si on a envie de se dire ah oui, tiens, comment ça marchait ce truc-là déjà, on peut se référer à ton article. Ça permet de s'y retrouver plus facilement.
Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, c'est plutôt instinctif parce que chaque action est assignée à un bouton, il n'y a pas de menu à dérouler. Donc au final, tu feras toujours la même chose avec A, tu feras toujours la même chose avec X, et c'est ce qui fait que le combat gagne avec une certaine fluidité en fait.
Ah, tu peux le changer si t'aimes te niquer la tête d'ailleurs.
Oui, mais tu peux le changer, mais tu sais à quel bouton va faire quel type d'action généralement, ça change pas. Et ça, c'est bien.
Bien joué. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Je voudrais juste vous amener sur une pensée. Les voitures autonomes nous entourent bientôt énormément. Je pense aux gens qui écoutent ça dans leur voiture, c'est pour ça que je dis ça. Donc si vous roulez à vélo en ville, pensez à mettre un t-shirt avec un sens interdit au dos pour les faire chier. Voilà, ça c'est important.
C'est bon, ça.
Testé et validé par des vrais gens. C'est juste extraordinaire. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas quel est le sujet de l'émission. J'avais dit que je voulais toujours avoir une ou deux émissions d'avance, mais là j'en ai aucune idée.
Nul.
J'ai une idée.
On va en discuter, nous, après l'émission. De toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve mercredi prochain. Merci de nous avoir suivis. Bisous, ciao tout le monde.
Bisous.
Salut.